renforcer l'Église actuelle, permettre que les fidèles, les laïcs et les membres du clergé puissent faire un travail à la base, de terrain, de relations interpersonnelles, mais ne pas se mêler pour l'instant des grandes orientations politiques. C'est la première préoccupation de l'Église cubaine qui, malgré les limites qui lui sont imposées, se doit d'être présente dans la culture et dans les structures sociales du pays. 20 ans après la conférence des évêques qui a marqué un renouvellement profond de l'Église cubaine, qu'en est-il de la situation des catholiques dans l'île ? Le père Jean-Pierre Borderon, fils de la Charité, analyse les différents aspects de cette situation. Pour lui, tout a commencé il y a plus de 25 ans à Puebla, au Mexique.
Il y a eu Jean-Paul II qui est passé à Puebla, et Puebla, ça a été un moment très important en Amérique latine, mais les évêques et quelques prêtres cubains qui avaient été à Puebla se sont rendus compte que l'Église cubaine, elle n'était pas dans toute la mouvance du reste de l'Amérique latine. Donc quand ils sont revenus, ils ont dit, il faut qu'on fasse un Puebla cubain. Et donc il y a eu tout un moment important, aux environs des années 80, quand l'Église a pris conscience qu'elle n'était plus une petite Église refermée qui se défendait, mais une Église qui avait besoin de vivre sa foi et d'être finalement un pôle d'évangélisation. Et ça a donné l'ENEC en 1986. Ça a donné une Église qui à la fois devait être missionnaire, priante et incarnée. De là est parti tout un tas de mouvements et de changements. En particulier, il y a eu un effort missionnaire qui s'est fait, qui a été suivi avec... ou en même temps avec la croix de l'évangélisation, les 500 ans d'évangélisation de l'Amérique latine. Et là, ça a donné donc un nouvel effort très grand. Et puis, il y a eu, aux environs des années 90, donc à la fois le régime soviétique qui tombe, un petit changement pas très fort, mais ça s'est, dans l'Église, concentré sur des prêtres qui ont pu rentrer, et surtout, on a presque doublé en quelques années le nombre de religieuses dans l'île. Il y a toute une formation de laïcs qui s'est faite, qui se sont mis en route un petit peu partout. Dans tous les diocèses, il y avait des petits bulletins qui ont été créés. Et ça a donné tout un élan.
Alors en fait, les Cubains sont libres de pratiquer leur foi. Cela dit, l'accès aux mass médias est toujours refusé à l'Église, tout comme la possibilité de donner des cours d'enseignement religieux à l'école ou de diriger des écoles à son propre compte.
Disons que à Cuba, on est quand même dans un aquarium. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nager et à utiliser au maximum tout l'espace qu'on a dans l'aquarium, mais on est quand même dans un aquarium, ça veut dire qu'on est bloqué sur un certain nombre de choses. Dans les journaux, on parle jamais de l'Église. Il y a eu quand même un petit renouveau parce que il y a la fête de Noël qui de nouveau a été célébrée depuis 97 avec le voyage du pape, mais pour un bon nombre de gens, ils savent pas encore ce que ça veut dire. Alors c'est vrai que l'Église reste limitée, hein. Il faut quand même qu'on reste plutôt à l'intérieur des églises.
Dans cet aquarium, comme vous dites, quel est cet espace ? Quels sont les domaines de la société où l'Église a droit d'intervention aujourd'hui ?
Alors, le droit d'intervention dans la société, directement, pas beaucoup, mais il y a déjà la visibilité de l'Église qui n'est plus du tout la même qu'avant. Maintenant, il y a un certain nombre de lieux de culte qui sont beaucoup plus fréquentés qu'avant. En même temps, je crois, on n'a pas beaucoup de facilité, mais il y a eu tout un travail de Caritas qui a été fait pour quand même qu'il y ait, et c'est un des points sur lesquels on discute un petit peu avec les gens du gouvernement, quelle est la place que l'Église peut prendre au niveau caritatif. Petit à petit, comme les choses vont un petit peu plus mal au point de vue économique, les paroisses peuvent arriver à donner des petits déjeuners à un certain nombre de gens, les aider un petit peu au point de vue matériel. Donc il y a tout un travail quand même qui se fait. On ne sait jamais trop bien jusqu'où on peut aller, parce que ce n'est pas la liberté totale pour faire ce qu'on veut.
Et le laïcat, comment se présente-t-il aujourd'hui à Cuba ? Se développe-t-il ?
Alors, c'est là où on a quand même, depuis un bon nombre d'années, des gens qui sont rentrés dans des écoles de formation. Dans tous les diocèses, on a un centre de formation pour laïcs. Les laïcs voyagent aussi un petit peu partout, donc ils se connaissent dans l'île. En même temps, il y a eu tout un effort qui s'est fait donc à l'intérieur de la formation pour qu'il y ait des gens qui soient responsables de catéchisme, responsables des communautés. On travaille la Bible. Il y a aussi plusieurs milliers de personnes qui ont étudié très sérieusement la doctrine sociale de l'Église. Et donc là, il y a des choses qui se font. C'est pas très très visible, mais il y a quand même des messages qui sont en train de se transmettre.
Au regard de ces divers aspects de la vie de l'Église catholique à Cuba, que vient nous expliquer le père Borderon, une autre analyse s'impose. L'état des relations entre l'Église et l'État aujourd'hui à Cuba, des relations qui n'ont jamais été simples. Philippe Létriard, du Centre d'études et de recherche internationale, a étudié les relations entre le castrisme et le catholicisme. Auteur de l'ouvrage « Cuba, l'Église et la Révolution » aux éditions L'Harmattan, il nous parle d'une série d'embellies pas toujours concluantes. Écoutez.
Là, effectivement, il y a eu un renouveau, une embellie au moment de la visite du pape, mais qui n'a finalement pas duré très longtemps. Parce que dès l'année suivante, c'est-à-dire 1999, certaines autorités cubaines ont commencé à évoquer l'idée d'une dépapisation de l'île. Enfin bref, ils avaient l'impression que la visite du pape avait provoqué des réactions qui allaient un petit peu plus loin que ce qu'il pouvait permettre. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en réalité, le régime cubain n'est jamais allé trop loin vis-à-vis de l'Église catholique. L'Église a toujours pu célébrer des messes, faire le catéchisme, l'État ne s'est pas mêlé des nominations, etc. Mais il y a une sorte de statu quo qui s'est mis en place, qui a permis à l'Église de continuer à exister, de continuer à fonctionner, sans beaucoup de moyens, mais une sorte de tolérance, si vous voulez. Et en réalité, l'Église elle-même, j'ai l'impression, est un peu dans une situation d'attente. Le chef de l'Église cubaine, le cardinal Jaime Ortega, est une personne qui souhaite d'abord défendre son Église, qui est une Église fragile, qui souhaite d'abord faire du travail pastoral, du travail de terrain, et ensuite seulement, dans un deuxième temps, peut-être essayer de réfléchir sur la situation politique dans l'île, sur la situation sociale, sur l'avenir de l'île, sur l'avenir de l'Église dans l'île.
Mais l'Église a-t-elle malgré tout un peu plus d'influence sur la société cubaine ? Mais en fait, sur qui peut-elle compter réellement ?
Alors ça, c'est une question délicate parce que c'est une question qui se ramène finalement au nombre de fidèles catholiques à Cuba. Et là, on entre dans un domaine qui est très imprécis en réalité, pour plusieurs raisons. L'Église elle-même revendique à peu près 60-70% de catholiques dans l'île. Ça n'est pas faux si on s'en tient aux chiffres du baptême. Le régime, pour sa part, lui, estime qu'il y a 1% de catholiques à Cuba. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a quand même une marge assez énorme. Donc la vérité se situe certainement entre les deux. Alors, c'est une situation qui est un peu ambiguë, parce qu'il y a à Cuba la présence d'autres religions, à côté de la religion catholique. Il y a d'abord des protestants, et à côté, il y a également les religions afro-cubaines, et en particulier la Santeria, qui est une religion dérivée des religions natives des Africains d'Afrique de l'Ouest. C'est une religion syncrétique. Et les santeros, c'est tous les gens qui pratiquent cette religion, doivent être baptisés pour pouvoir la pratiquer. Et ils doivent aussi, d'ailleurs, aller à l'Église catholique. C'est quelque chose de favorable. Donc ça veut dire que parmi tous les gens qui se revendiquent catholiques à Cuba, il y a un grand nombre de gens qui, en réalité, sont des gens qui sont à la fois catholiques et à la fois autre chose. Alors tout ça pèse, évidemment, sur l'influence de l'Église catholique. Sur qui peut-elle compter réellement, c'est assez difficile.
Philippe Létriard, quels sont, d'après vous, les moyens objectifs que l'Église pourrait peut-être se permettre dans l'avenir et qu'elle n'utilise peut-être pas, ou du moins relativement ?
L'Église a en réalité plusieurs possibilités pour l'avenir et plusieurs possibilités pour jouer un rôle dans l'avenir. Une des tendances de fond, si vous voulez, dans l'Église catholique depuis 50 ans, depuis l'avènement du castrisme, c'est que l'Église souhaite effectivement rejouer un rôle central dans la société cubaine. Elle a la capacité de parler au nom de groupes qui, eux, n'ont pas accès à la parole. Alors ça, l'Église l'a fait depuis longtemps et elle continue de le faire. Et notamment, la conférence des évêques catholiques de Cuba publie régulièrement des textes, des pastorales, etc., dans lesquels ils prennent position sur la situation à Cuba. Pour l'avenir, la hiérarchie catholique continuera d'utiliser ce type d'instrument, ce type de moyen d'action, parce qu'elle ne souhaitera pas, c'est la position du cardinal Ortega, s'immiscer directement dans la politique cubaine. Le plus important, c'est de réussir la réconciliation nationale au moment où le castrisme finira.